Jusqu'à 19h, les grandes voix de ce samedi 27 mars avec ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Philippe Moreau-Chevrolet, prof à Sciences Po, spécialiste de communication politique, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Ça y est, la campagne 2022 pour la présidentielle est lancée. La candidature de Xavier Bertrand, qui sera demain l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 à partir de 10h, ravive derrière la question, faut-il ou non une primaire à droite? Même questionnement à gauche d'ailleurs. Et qu'apporterait le projet de Xavier Bertrand au débat? On va y venir. Les Hauts-de-France, dont il est le président de région, comme l'Île-de-France, sont par ailleurs dans une situation épidémique préoccupante. Vous le savez, le gouvernement ira-t-il jusqu'à annoncer la semaine prochaine une fermeture des écoles? C'est la petite musique qui monte et vous avez des informations, chère grande voix, on les relaie. Ce que vous avez vu, lu et entendu, on le partage aussi ensemble.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Xavier Bertrand l'a annoncé dans Le Point cette semaine. Oui, je serai candidat à la présidentielle, totalement déterminé à prendre de vitesse tous ses concurrents à droite. Dans le timing, vous diriez que c'est réussi, Laetitia Krupa?
Il y a eu beaucoup de critiques en disant que c'était inaudible parce qu'on était effectivement, vous l'avez dit, en plein pic de la crise sanitaire avec des questions qui sont vraiment très concernantes pour les Français. Est-ce que dans les zones qui sont donc confinées là aujourd'hui, est-ce que confinées, on s'entend, est-ce que les écoles vont fermer ou pas? Et tout d'un coup, effectivement, Xavier Bertrand arrive et nous dit pour la quatrième fois, parce que ce n'est quand même pas la première. Enfin, il nous le dit officiellement cette fois-ci. Je suis candidat à la présidentielle. Bon, ok, le timing, je ne pense pas qu'il soit bon, mais honnêtement, Wendy, qui peut dire aujourd'hui à quel moment il sera audible? On ne sait pas du tout dans 15 jours quelle sera la situation du pays. On imagine que la vaccination va accélérer et donc il y aura peut-être un tout petit apaisement dans l'actualité pour une parole politique. Donc, honnêtement, je trouve que en fait, c'est juste plus la forme, moi, qui me semble... en fait, la rendre inaudible, cette candidature, parce qu'elle est bon dans Le Point avec une vidéo qui était vraiment ni faite ni à faire. Ça, on demandera à Philippe son avis. Mais voilà, bon, je trouve que ça fait un peu pchit.
C'est une bonne stratégie, à contrario, pour vous, Philippe Moreau-Chevrolet, ou Frédéric Dabi, d'ailleurs, déclarer désormais, voilà, pour avoir une voix qui porte au-delà des Hauts-de-France. Qui veut répondre? Frédéric.
Je me lancerai parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laetitia Krupa. Je trouve que c'est un timing surprenant et c'est un timing intéressant. On aurait pu en fait imaginer que Xavier Bertrand reste sur la logique classique, celle qui avait été utilisée par François Hollande en 2011. Il attend sa réélection comme président du Conseil général de Corrèze à l'époque pour pouvoir se déclarer. Là, très clairement, il a voulu occuper l'espace à droite. Il a voulu sortir du statut de troisième homme. Et c'est vrai qu'aussi, il se prémunit, parlons franchement, d'un report possible des élections régionales s'il avait attendu ce timing classique qui est je suis élu régionalement, ça me donne un tremplin pour pouvoir partir au niveau national. Et en plus, il casse l'effet, secret de Polichinelle, puisque bien sûr, tout le monde sait, y compris dans les Hauts-de-France, ses adversaires l'attaquent déjà sur un possible abandon de la région. Donc de ce point de vue-là, alors que la surprise, on sait que ça constitue un ingrédient important pour convaincre les Français, c'est plutôt bien joué, même si, bien sûr, dans un contexte de crise si forte, c'est assez compliqué d'être d'imprimer. Mais en tout cas, il a imprimé à droite quand on voit l'effervescence du côté des différents appareils partisans, LR et autres.
Et on parlera des intentions de vote dans un instant. En tout cas, ça provoque des choses, une grande précipitation à droite, notamment Philippe Moreau-Chevrolet. Alors ça, c'est réussi.
Oui, c'est réussi parce que le coup est réussi parce que d'abord, personne ne l'attendait sur ce calendrier-là. Donc de ce point de vue-là, comme le dit Frédéric, l'effet de surprise joue à plein. Et puis ensuite, parce que il prend tout le monde de vitesse, donc il n'est plus question de primaire, il n'est plus question de discuter des modalités de nomination d'un tel ou d'un tel. Et de ce point de vue-là, il avait besoin de le faire pour pouvoir clarifier la situation à droite à son avantage. Donc c'est plutôt intelligent. Après, ce qu'il a à franchir, lui, comme cap, c'est arriver à dépasser les 13% au premier tour, hein, qui est quand même pas un socle très important. Donc il a assez peu de temps, il a quelques semaines, quelques mois pour arriver à monter à 20-30%. Et là, le pari sera vraiment gagné. Mais c'est à la fois bien parce que c'est au moment où la Macronie n'est pas en situation de répondre qu'il attaque, donc ça c'est bien. Et en même temps, il faut qu'il aille très vite faire ses preuves pour montrer qu'il est vraiment celui qu'il prétend être, c'est-à-dire le leader de la droite naturel. Oui. Entre guillemets.
Alors
c'est son
ça.
vrai défi.
C'est une des questions qui se pose, hein, Laetitia Krupa. De qui veut-il et de qui peut-il être le candidat, finalement, Xavier Bertrand, qui refuse, qui n'a plus l'étiquette Les Républicains, mais qui peut évidemment capter derrière lui une bonne partie de cet électorat, néanmoins, sans primaire.
Mais c'est un pari que Xavier Bertrand a pris il y a très longtemps, Wendy, je peux vous le dire. Il l'a pris dès l'élection d'Emmanuel Macron. Il s'est dit, très bien, à partir de là, moi, je vais sortir d'un parti politique et j'irai, comme Emmanuel Macron, me confronter au vote des Français. Voilà. Et donc, il l'a pris, il l'a tenu, puisque c'est ce qu'il fait aujourd'hui, Xavier Bertrand. Mais bon, finalement, il nous dit quoi ? Il nous dit, je suis le petit assureur, l'agent d'assurance. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. Il n'a de cesse de répéter...
C'est-à-dire loin de l'anarchie, de la technocratie,
évidemment,
l'homme de terrain,
évidemment, l'homme
des affaires
de
sociales.
Terrain. Il n'a de cesse de répéter qu'il sera... le défenseur de la droite sociale. Mmh. Donc c'est bien ce positionnement-là qu'il adopte, Xavier Bertrand. Il parle à la droite, oui, mais il n'oublie pas ce que Jean-Pierre Raffarin appelait la France d'en bas. Mmh. Et c'est ce pari-là qu'il veut tenir. Donc on va voir s'il réussit, mais je peux vous assurer qu'il le prépare depuis des années.
Oui, et en ça, ça a fait de lui un candidat sérieux, Frédéric Dabi. Philippe disait 13%, c'est autour de 13-15% des intentions de vote, mais voilà. Ça fait de lui le troisième homme quand même, hein, aujourd'hui.
Tout à fait, dans notre dernière enquête IFOP pour Marianne, il est à 15% en fait, d'attention de vote, c'est un statut de troisième homme. Vous avez un an avant une élection présidentielle, il faut être extrêmement prudent. Un an avant 2017, Emmanuel Macron n'était pas testé systématiquement. Quand Jacques Chirac se déclare en novembre 94, il est à 8-10% d'attention de vote. Alors pour un peu prolonger ce qu'a dit Laetitia, oui, c'est un clair message à la droite, mais il n'oublie pas non plus la gauche. Dans un contexte de division jamais vue à gauche et une intériorisation par le peuple de gauche que sans doute, peut-être, il y a un risque très sérieux d'un troisième 21 avril, il peut aussi apparaître comme un réceptacle d'électeurs de gauche qui ne veulent absolument pas le duel Macron-Le Pen. Ça rappelle un peu le positionnement de Jacques Chirac en 94-95, où il avait pu drainer une partie importante de l'électorat de gauche qui ne voulait absolument pas voir élire Édouard Balladur. D'ailleurs, dans
fait,
une enquête récente...
Il fait un bon score
au second tour, il fait un meilleur score face à Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron.
Je pense qu'il n'est pas du tout justement dans cette optique partisane.
57%, oui. Et c'est pour ça qu'il casse ce match annoncé, ce qui nous fait du bien aussi.
Oui, parce que ça casse le match annoncé. Puis là, on voit bien ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le positionnement qui va se dérouler pour les adversaires de Macron, qui est un peu le positionnement commun avec Marine Le Pen. C'est-à-dire, en gros, nous, on n'est pas des experts. On n'est pas des grosses têtes, mais vous avez vu ce que ça donne au pouvoir, vous n'en voulez plus. Mmh. Nous, on est des gens modestes, de terrain. Xavier Bertrand dit d'ailleurs, il attaque assez habilement en disant « je réfute à la fois l'héritière Le Pen et le banquier Macron ». Donc, il se positionne comme l'homme qui travaille. Bon, dans la réalité, il n'a pas tant travaillé que ça hein, en tant que professionnel, mais il joue cette carte-là. Et finalement, comme on vote plutôt en réaction contre le président précédent, et ça a été la clé de tous les scrutins précédents, comme on vote plutôt contre et qu'on cherche le décalque complet du président précédent, c'est plutôt malin de dire « je suis l'anti-Macron », quelque part, en fait.
Oui, et sur l'autorité, sur l'insécurité, il le dit, Emmanuel Macron n'a pas compris, n'a rien fait, d'où ses propositions assez répressives. Hein. D'ailleurs, l'abaissement à 15 ans de l'âge de la majorité pénale, enfin, il est en train de gonfler un argumentaire aussi sécuritaire.
Oui, mais enfin, ça fait des mois qu'on dit que de toute façon, le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, c'est le régalien. Donc, bien sûr, sans surprise, il va sur le régalien. Et je vais vous dire quelque chose, Wendy, tous ceux qui vont se présenter contre Emmanuel Macron seront des candidats anti-Macron. Évidemment, ils seront l'antithèse d'Emmanuel Macron, du programme d'Emmanuel Macron, de l'incarnation qui est vraiment détestée par une grande majorité de Français d'Emmanuel Macron. Et donc, Xavier Bertrand, il prend sa chance, il prend son risque en se positionnant comme le candidat, finalement, possiblement du bloc, Jérôme Sainte-Marie l'appelle, le bloc populaire. Vous savez, on n'est plus dans la gauche-droite, on est davantage dans un bloc élitaire représenté par Emmanuel Macron, grosso modo, et le bloc populaire qu'on a du mal encore à définir. Et Xavier Bertrand, il se positionne au milieu, mais davantage en tendant la main à ce bloc populaire. Et ça va être ça, le pari de 2022. Comment va se dérouler l'élection présidentielle, non plus sur cette opposition partisane, mais entre la France d'en haut et la France d'en bas.
Oui, et de fait, est-ce qu'il va falloir justement réorganiser un système de primaire où cela crée-t-il trop de filtres justement entre les Français et leurs candidats? Frédéric Dabi, vous allez probablement faire pas mal de sondages d'opinion sur les primaires. Est-ce que la droite en tiendra? Est-ce que la gauche en tiendra? C'est d'être une question qui sera résolu dans les semaines qui viennent.
Oui, je partage votre point de vue. Wendy, il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas négliger le souvenir traumatique dans le peuple de droite de la primaire de 2016. Rappelez-vous, elle a duré quasiment un an et demi en termes de campagne, mais dans l'imaginaire de la droite, c'est cette primaire qui est responsable de la défaite de François Fillon, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et donc, je dirais, la primaire s'impose beaucoup moins que par le passé. On se souvient de la primaire réussie du Parti socialiste. C'est vrai aussi que la question, c'est de la question du tempo de cette campagne présidentielle. Dans une enquête qu'on a publiée hier, IFOP fiduciale pour CNews, on voit qu'une majorité énorme de Français, 70%, considèrent que la crise sanitaire sera derrière nous après le premier semestre 2022. Cela veut dire que pour la première fois, cette campagne présidentielle se fera dans un contexte de crise sanitaire, sociale, économique aiguë, et tout cela avant même de parler de bloc populaire, même si je partage l'analyse de Laetitia Krupa. Il faut voir, est-ce que les Français iront voter?
Bien sûr.
L'abstention a été un tel poison et a miné le lien entre représentants et représentés dans un contexte de défiance absolue avec cette crise de la Covid.
Frédéric Dabi, Laetitia Krupa, pour clore cette page politique, je voudrais qu'on termine avec un article qui vous a passionné, Philippe Moreau-Chevrolet, qui fait un peu le pont entre ce que nous mettons en lumière ce soir, un article du Monde sur les magnats des médias.
Oui, c'est un article qui est absolument passionnant de Sandrine Cassini. Alors moi, j'ai fait mes débuts avec Sandrine Cassini à la Tribune quand j'étais jeune journaliste. Elle était déjà très brillante, donc ça se confirme. Et Olivier Faye, c'est un article sur les grands blocs de médias en fait qui vont s'affronter dans la perspective de 2022. En gros, qui vont soutenir Bernard Arnault, qui représente un bloc, Vincent Bolloré, qui est en train d'essayer de vouloir conquérir une grosse partie du paysage médiatique, et puis des acteurs plus petits comme Xavier Niel, par exemple, qui sont un petit peu en train eux aussi avec Media One d'essayer de constituer leur propre empire. Donc on sait en France qu'un an, deux ans avant l'élection présidentielle, les grandes manœuvres commencent. Et c'est ce que décrit brillamment l'article qui dit en gros qu'il y a peut-être une alliance possible de Vincent Bolloré, en tout cas c'est ce qui est redouté à l'Élysée, avec Xavier Bertrand ou bien avec Marine Le Pen, mais qu'en gros il y a une crainte que Vincent Bolloré ne veuille peser sur cette élection présidentielle. Et donc, comment on fait du côté du président? Bien, pour avancer ses pions en face, essayer de jouer une stratégie, un petit peu comme, c'est une stratégie un peu comme aux échecs, hein, essayer de jouer une contre-stratégie. Mmh. Et donc, le sort de médias entiers, RTL, M6, de vos confrères, dépend aussi de cette bataille, Wendy. C'est au centre de cet échiquier-là, finalement, que se retrouvent les médias, dans une bataille qui est homérique, hein, entre des titans de la presse et avec l'Élysée au centre, qui espère, lui, avec Bernard Arnault, notamment, c'est ce que dit l'article, pouvoir mettre en échec Vincent Bolloré. Donc, c'est une bataille qui d'habitude n'est jamais expliquée. C'est qu'on le sait quand on fait partie du métier, mais on n'a personne pour le décrire. Là, l'article, pour la première fois, c'est la première fois que je lis quelque chose d'aussi extraordinairement fait et renseigné. Pour la première fois, on peut assister en spectateur à quelque chose dont on sera bientôt l'acteur, c'est-à-dire la bataille médiatique pour 2022.
Merci Philippe. Réaction, Laetitia, avant la
Avec toujours la même question, Philippe, est-ce que les médias font l'élection? Bruno Roger-Petit répond dans l'article en disant non, et moi je pense qu'au contraire, oui, et ça n'a jamais été prouvé que l'influence des médias...
Bruno Roger-Petit, conseiller communication d'Emmanuel Macron.
Oui, il ne faisait pas le vote, et évidemment que oui, il y a une influence sur l'opinion publique des médias qui sont des médias de masse et qui restent encore des médias de masse. On le sait que Twitch va prendre aussi de sa part, qu'Internet aura sa part dans cette campagne, mais la télévision, la radio, la presse écrite, évidemment, ont une influence considérable sur l'opinion publique et donc sur le vote.
Merci Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, Philippe Moreau-Chevrolet. On reparlera sans doute de Xavier Bertrand demain dans le débat des Grandes Voix, car il est invité du grand rendez-vous 10h-11h demain sur Europe 1. A tout de suite, on va parler de la situation sanitaire et de l'information qui circule. Conseil de défense sanitaire mercredi. Et une hypothèse sur la fermeture des écoles. On verra ce que vous en pensez. A tout de suite.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
18h50, nous sommes toujours avec Laetitia Krupa, journaliste politique. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, spécialiste de communication politique. Le gouvernement qui accélère depuis hier et surtout aujourd'hui samedi les contrôles sur l'interdiction de se déplacer en dehors des 19 départements confinés. Ça se précise dans les mesures aussi à l'école, car Jean-Michel Blanquer a calmé le jeu, on pourra peut-être dire cela comme ça, en annonçant que dès lundi, chaque contamination Covid dans une classe vaudrait fermeture de cette classe. Alors on peut juste se demander ce que ça peut provoquer, hein. Est-ce que ça va faire freiner les tests salivaires? Est-ce que les parents oseront dire que leur enfant est positif pour ne pas le mettre à l'école et donc le garder à la maison? C'est la réaction en chaîne qu'on redoute. Comment vous analysez cette prise de position de Jean-Michel Blanquer qui a compris quand même la détresse du corps enseignant, des parents et l'inquiétude des épidémiologistes sur l'école? Frédéric, vous êtes avec nous toujours?
Oui, je suis là, bien sûr. Donc oui, effectivement, il y a vraiment une inquiétude très forte des parents d'élèves. On le voit dans nos enquêtes, et une anticipation assez dévastatrice d'une fermeture des écoles qui ferait que, pour les parents, ce serait le retour à un confinement modèle mars dernier. Donc c'est clairement un moment qui est c'est un véritable tournant qui inquiète beaucoup les Français, dans un contexte où clairement la course de vitesse entre les mesures barrières d'un côté, on gagne du temps face au virus, et la vaccination est en train d'être perdue. Hein. Je rappellerai notre enquête d'hier où seulement un gros tiers des Français considèrent que l'engagement présidentiel de vacciner tous les Français sera tenu. On est, j'ose le dire, dans un moment absolument crucial où le désarroi s'empare de l'opinion publique. Et l'école, c'est un lieu de résonance qui pourrait être absolument dévastateur pour passer d'un sentiment de résignation à un sentiment de révolte fort.
Oui, l'école qui est à nouveau clairement sur la corde raide. L'hypothèse d'une fermeture des écoles que pourrait annoncer le gouvernement, c'est une information qui circule. Est-elle à prendre au sérieux, Philippe Moreau-Chevrolet, d'après vos enquêtes?
Oui, c'est à prendre au sérieux parce que c'est tout simplement il y a une pression qui monte, qui est considérable sur Jean-Michel Blanquer et sur le gouvernement. La pression des parents d'abord, qui au niveau local s'affole. Hein, c'est dans certaines classes, ils retirent leurs enfants. Il y a la possibilité aussi pour les parents de discuter avec les directeurs des écoles, avec les directrices, avec le corps enseignant. Ils le font et ils s'aperçoivent bien que la situation est très très compliquée, pas forcément bien gérée. Il y a des parents qui jouent pas du tout le jeu. Moi, je suis élu dans une école, donc je peux en parler. C'est pas évident de dire à des parents qui travaillent que si le petit a de la fièvre, si eux-mêmes sont cas positifs, il faut retirer leur enfant de l'école. Ils le comprennent pas toujours. On a parfois des réactions extrêmement violentes quand on essaie d'avoir ce type de discussion. C'est pas facile. On est dans une recrudescence des cas dans les écoles qui est monstrueuse. Avant les vacances scolaires, on avait tel ou tel lycée qui était en train de rapatrier 200 élèves à domicile avec 20 personnels et enseignants qui manquent. Il y a un syndicat, le principal syndicat de la profession, qui a appelé les enseignants, les professeurs à déposer un préavis de grève.
SMIPP, oui.
Voilà, SMIPP. Donc c'est très compliqué pour le gouvernement de faire comme si tout ça n'existait pas. Il y a une inquiétude profonde sur les écoles et une partie des parents et des enseignants ont l'impression de servir de chair à canon. L'autre inquiétude, c'est est-ce que ce virus va pas provoquer des effets sur les enfants? Et on commence à voir que ils peuvent être malades assez sérieusement, avoir des séquelles. Donc c'est pas complètement non plus innocent dans cette histoire. Au fond, la fermeture des écoles, c'est à la fois la solution qu'il faudrait mettre en place pour freiner l'épidémie et rassurer tout le monde. Et en même temps, oui, évidemment, si on fait ça, on revient au confinement de mars, mais oui. Que finalement, on n'a pas trop tardé à prendre la mesure qu'il fallait.
Et puis, je reviens sur un terme que vous avez employé, un adjectif monstrueuse, la contamination monstrueuse des élèves. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire ça, Laetitia Krupa? Alors, elle existe, et le variant anglais fait que
elle
finalement, le virus
partout,
est une nouvelle épidémie. Mais c'est 0,17% des élèves aujourd'hui. Pour autant, ça circule beaucoup plus vite de semaine en semaine. C'est ça le problème, c'est les effets collatéraux sur les personnes plus vulnérables dans les familles. C'est ça qu'il faut juguler.
Bien sûr, et c'est pour cette raison que, pour l'instant, l'exécutif a pris cette décision qui est, c'est vrai, unique en Europe, de laisser les écoles ouvertes depuis la rentrée.
Avec une nouvelle condition
donc,
dès lundi, quand même.
Oui, bien sûr, mais Wendy, j'entends Frédéric Dabi et j'entends Philippe Moreau-Chevrolet qui disent le contraire. C'est-à-dire que Frédéric Dabi me dit que les Français ne sont pas pour une fermeture des écoles et Philippe dit ils sont pour. Moi, je n'en sais rien. Je sais.
Non, d'après les enquêtes d'opinion, Frédéric, ils sont contre, les parents.
Voilà.
Très clairement.
Peut-être. Non, moi, j'ai pas dit qu'ils étaient pour.
Les parents sont contre.
Des parents.
Oui.
Et pour l'instant, la question n'a pas été posée comme cela, mais c'est vrai que oui, les parents pèsent plutôt anticipent les conséquences dévastatrices
Évidemment.
Pour leur vie quotidienne si les écoles étaient fermées.
Mm-hmm. Évidemment, mais il faut faire, je pense, un distinguo entre la maternelle et la primaire où les parents doivent garder leurs enfants dans la journée si l'école ferme, et le collège et lycée où les adolescents peuvent normalement se garder seuls et donc soulager un peu les parents, parce que vous voyez bien, on l'a tous vécu, ceux qui ont des enfants, les conséquences que ça a d'avoir les enfants à la maison, ne serait-ce que pour le télétravail. Enfin, c'est très compliqué. Ils le savent et donc ils veulent absolument éviter cette embolie à domicile.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, donc, voilà. le problème, c'est que
les vacances scolaires, Philippe, vous pensez que les gens vont rester chez eux pendant les vacances scolaires? Vous pensez que les contrôles seront suffisants pour voir est-ce que les déplacements interrégionaux vont être respectés? Enfin, vous voyez, il y a un problème aussi maintenant d'acceptabilité et de respect des mesures, parce que ça ne peut pas marcher, la politique
voilà
sanitaire,
pourquoi,
si personne ne la respecte.
Voilà pourquoi les contrôles sont devenus davantage drastiques. Philippe,
ça fait trois mois qu'on dit qu'on a peur que les Français ne respectent pas les consignes. Je pense qu'on est l'un des peuples les plus disciplinés de la planète. On respecte globalement très bien les consignes sanitaires. Et là, la question, c'est de savoir si, oui ou non, l'école est un lieu de contamination. Visiblement, oui, c'en est un. Et les conséquences sanitaires sur le long terme, on ne les connaît pas bien, de cette épidémie. Et on a envie tous d'en sortir de cette situation. Moi, j'ai pas envie d'avoir 40 000 cas par jour, de pas pouvoir vivre normalement. J'ai envie qu'on me propose une solution. Si une stratégie est mise en place où on me dit qu'il faut fermer les écoles pendant un certain temps, mais qu'au bout, on va reprendre la maîtrise de l'épidémie, qu'au bout, on va tester les gens et qu'on va enfin devenir intelligent dans notre façon de gérer ça pour qu'on puisse en sortir comme en Israël ou dans d'autres pays. Je vote dès demain, moi, pour la fermeture des écoles. Et je pense que la plupart des gens sont tellement excédés aujourd'hui, comme le dit Frédéric, qu'ils sont prêts à accepter des mesures de ce genre-là. Et je voudrais terminer juste par une chose. Au lycée de la Croix à Drancy, c'est sorti aujourd'hui, on a une situation où 20 élèves ont déjà perdu un parent du Covid. Donc on a des classes comme ça, dans les zones les plus touchées, en Seine-Saint-Denis notamment, qui sont où on a des morts dans la famille. Et quand un enfant est responsable de ça, quel effet ça peut produire sur lui s'il a le sentiment d'avoir contaminé sa famille? C'est ce genre de débat qu'on n'a pas en France, parce qu'on dit surtout ne touchons pas aux écoles, mais il faut penser aux conséquences à long terme et dangereuses de laisser les écoles ouvertes. Et finalement aussi, je voudrais signaler quand même que grâce au téléenseignement, grâce à l'investissement des professeurs, et comme l'a souligné justement Jean-Michel Blanquer, le niveau des élèves a progressé pendant le confinement. Il n'a pas régressé, il a progressé. Donc en fait, on est capable d'enseigner à distance. Et ce langage-là, il vaudrait beaucoup mieux le tenir plutôt que de faire peur aux gens en leur disant c'est tout ou rien.
Oui, mais à quoi ça sert de fermer les écoles ? À quoi ça sert de fermer les écoles si on ne confine pas, Philippe ? Enfin, je veux dire,
ça équivaudra à un confinement.
Oui, bon, bah voilà, donc il faut dire les choses. Donc, c'est-à-dire on ferme les écoles et on confine, parce que si les gens continuent à se voir et à sortir, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais.
Merci.
Non, mais moi, la cohérence de la politique gouvernementale sur la lutte contre le Covid, je la vois pas, donc je peux pas dire mieux que ça.
Merci Philippe. Je voudrais qu'on laisse un peu de temps, 18h58.
Wendy Bouchard,
s'il vous plaît,
les grandes voix.
À Frédéric Dabi, qui a lu un papier dans Libération. Ça nous permet de parler cinéma, de rendre hommage à un grand réalisateur. C'est un papier dans Libération, en l'occurrence, qui vous a donné la nausée, Frédéric.
Oh oui, c'est un véritable coup de gueule, hein, la manière dont Libération a traité la disparition de Bertrand Tavernier, un immense cinéaste disparu jeudi à l'âge de 79 ans. Bertrand Tavernier, c'était une érudition, c'était une passion pour le cinéma, c'était une filmographie éclectique qui aborda tous les genres, la fresque historique avec La fête commence, la satire sociale avec Coup de torchon, le fait divers avec Le juge ou l'assassin ou la paf. Enfin, je vais pas, égrener toute sa filmographie. Rien de tout cela dans l'article de Libération, c'était au contraire une nécrologie remplie de fiel et de mépris que ce journal nous a proposé. D'une part, il y a une question de timing, on peut déplorer un manque de délicatesse à l'égard d'une personnalité venant à peine de disparaître, on avait le droit de ne pas l'apprécier, mais de là à piétiner sa mémoire, il n'y avait qu'un pas que Libé a malheureusement franchi. D'autre part, il y a le fond de l'article qui analyse moins l'œuvre de Tavernier, qui ne regorge de clichés en parlant de cinéaste pesant, de Tavernier, l'homme de culture qui devient un personnage envahissant, épuisant, un cinéaste bien pensant, distributeur automatique de bons et de mauvais points, un vieil oncle radoteur du cinéma français avec des films à la démonstration lourdingue. Donc le tout est à l'avenant. J'invite vos auditeurs, mais est-ce que c'est utile de se reporter sur cet article ? Tout est à l'avenant en termes de méchanceté, de facilité et de mépris. Tout ce que Bertrand Tavernier, cinéaste engagé, exigeant, qui voulait faire comprendre l'histoire et la société, n'était pas. En un mot, son cinéma était populaire. C'est peut-être ce que Libé n'a pas aimé.
Ouais, quel navrant parti pris. En tout cas, merci de le relayer. Frédéric Dabi, Laetitia Crepin, on vous retrouve demain avec Philippe Moreau-Chevrolet, Aurélie Herbemont. Merci Frédéric Dabi. À la semaine prochaine. Merci, chers amis. On se retrouve pour l'info.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.